va passer au dossier d'aujourd'hui qui est donc une conférence qui s'est tenue vendredi dernier, organisée par l'association Survie, intitulée « Résistance médiatique à la France-Afrique ». Donc elle réunissait un certain nombre d'acteurs qui luttent à la fois contre la manipulation dans les médias traditionnels sur l'Afrique et pour développer des médias alternatifs. Donc il y avait autour de la table Sharon Courtou de l'association Survie, donc, qui a été créée par François-Xavier Verschave, qui est récemment décédé. Frédéric Séméon d'Afrique 21, c'est un journal qui relaye les luttes syndicales et associatives en Afrique. Et c'est également une association qui réunit la CNT, Act Up Paris, le CADTM et un certain nombre d'autres collectifs, comme le collectif Norbert Zongo en France. Il y avait également Olivier Blamangin de LibérationAfrique.org, qui est un journal, pareil, qui se veut un journal de solidarité internationale et qui relaye les luttes sociales en Afrique subsaharienne. Et pour finir, Mediba, qui vient de co-rédiger avec Olivier Siran l'almanach critique des médias. Et donc, tout ce monde-là aborde la question de la France-Afrique, qui était particulièrement d'actualité avec le récent sommet Afrique-France qui vient de se terminer, au cours duquel Chirac s'est encore illustré. Et ils sont pas mal revenus sur, comme vous allez le voir dans la première partie, sur le livre récemment sorti, Négrologie, de Stephen Smith, qui est un ouvrage qui véhicule tous les clichés les plus éculés sur l'Afrique, auquel François-Xavier Verschave, Odile Taubner, donc là, qui est la veuve de Mongo Betty, et Boubacar Diop ont répondu par un récent négrophobie.
Je vais faire un petit peu de contexte, deux minutes, pour qu'on puisse un peu voir où on en est. En cette année 2005, le manifeste « Nous sommes les indigènes de la République » a eu le mérite de relancer le débat sur la fracture coloniale. Un mois plus tard, la loi du 23 février 2005, longuement préparée, apparaît comme une véritable provocation. Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord. Alors, donc, il y a des collectifs qui se créent, des colloques, des pétitions. Le débat sur la colonisation s'installe en couverture des magazines, sur fond d'offensives néo-réactionnaires et d'émeutes dans les banlieues. Un couvre-feu est instauré, reprenant une loi coloniale de 1955 pendant l'atroce guerre d'Algérie. Aujourd'hui, les thèses du FN se banalisent, ressurgissent les pires clichés coloniaux, la polygamie responsable des émeutes, par exemple, et Sarkozy cartonne dans les sondages. Et justement, selon un autre sondage paru ce matin, le coup près tombe. 2 Français sur 3 saluent le rôle positif de la colonisation, dont 79% chez les sympathisants de l'UMP, mais aussi 68% chez les sympathisants communistes, 59% chez les Verts et 55% chez les socialistes. On n'enseigne plus que le projet colonial voulait aussi éduquer à porter la civilisation aux sauvages, regrette Alain Finkielkraut. Allez dire ça à Olivier Lecourt-Grandmaison, récent auteur d'un ouvrage retentissant, Colonisé, exterminé, sur la guerre et l'État colonial. Une grande majorité des Français considérant les droits de l'homme comme le fondement même de leurs valeurs cherchait l'erreur. Mais changeons de décor et revenons à l'actualité contemporaine. Le sommet des chefs d'État franco-africains à Bamako. Papa Bongo, installé au pouvoir par la France depuis 38 ans, autrement dit président à vie, sera là ainsi que d'autres amis de Jacques Chirac, tous plus sanguinaires et corrompus les uns que les autres. Les organisations françaises et africaines mettent en place un contre-sommet à Bamako, mais aussi en France, centre névragile du système néocolonial appelé France-Afrique, décrit par le regretté François-Xavier Verschave. L'association Survie, qui l'a présidé jusqu'à sa mort récente, a pour objectif d'instaurer des rapports plus sains entre la France et l'Afrique, la promotion des biens publics à l'échelle mondiale et la lutte contre la banalisation du génocide. Odile Taubner, qui a succédé à François-Xavier Verschab, vient de faire état à Bamako du bilan désastreux de l'action de Paris en Afrique. Je la cite, « La coopération entre la France et le continent s'apparente à celle du cavalier et du cheval. Depuis les indépendances, les gouvernements français successifs ont constamment cherché à étouffer tout ce qu'il y avait de vigoureux et de constructif en Afrique. » Alors ici, la guerre des mémoires ne sera pas le sujet central de notre rencontre, même si elle reste en toile de fond. Il s'agit d'un combat que mènent des médias alternatifs, le combat de ceux qui n'entendent pas satisfaire des poncifs régulièrement déversés dans les médias dits de référence, Le Monde, Libération par exemple, pour ne pas les citer. La France-Afrique, c'est promis, c'est terminé, promis juré, disent les analystes à chaque fois. Pourtant, cette année au Togo, le dinosaure Nasingbé Yadema, aussitôt décédé, est remplacé par son fils, Faure Nasingbé. Vous l'aurez compris, l'opinion publique étant le nerf de la guerre, les médias sont dans la ligne de mire. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Sharon Courtou, qui est vice-présidente de Survie, ainsi que Olivier Balmangin de LibérationAfrique.org, qui est animateur du site, Frédéric Siméon d'Afrique 21, donc c'est un trimestriel, en gros, sur les alternatives africaines, et également Mediba, qui est éditeur aux Arènes, qui a publié, qui est co-auteur aussi de l'Almanach critique des médias. Je vais passer la parole à Olivier Blamangin de Libération Afrique.
Je vais faire très court parce que je crois que ce qui est plus intéressant, c'est qu'on discute ensemble de quel besoin de médias on a besoin pour les résistances africaines. Juste peut-être vous présenter un peu le projet qui est autour de LibérationAfrique.org et comment l'outil fonctionne et comment il se veut en tout cas être un outil parmi d'autres au service des luttes et des résistances africaines. Alors, Libération Afrique, c'est peut-être un nom que vous connaissez parce que c'est un vieux journal en fait, c'est un journal qui est né en 1971, et c'était, il est né à Alger, de la réunion de six mouvements de libération nationale, de l'ANC, de la ZAPU, de la SWAPO, du MPLA d'Angola, du Frelimo de Mozambique, avec cette idée qu'il y avait besoin pour ces mouvements de libération nationale d'une agence de presse autonome. Alors, je ne parlerai pas de contre-médias, mais de médias alternatifs, autonomes, pour pouvoir, en l'occurrence une agence de presse francophone, puisque ces mouvements étaient anglophones ou lusophones, qui puisse diffuser de l'information, faire connaître les luttes qui étaient menées par ces mouvements, ces luttes de libération nationale menées par ces mouvements. Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire du journal. Il a cessé de paraître en 76, il est avec la révolution des œillets de 74, les principaux mouvements arrivés au pouvoir. Il s'est reconstruit à partir de 78 dans une optique qui était là plus celle des luttes contre le néocolonialisme, contre les pouvoirs économiques et politiques, notamment français, dans cette nouvelle Afrique indépendante, entre guillemets. Et puis il est mort à nouveau à la fin des années 70. Alors pourquoi recréer aujourd'hui, alors dans une forme tout à fait différente, puisque c'est en utilisant l'outil Internet, pourquoi recréer Libération Afrique, eh bien un petit peu dans la même logique, non pas de créer un contre-média, mais un média alternatif qui donne la parole au mouvement. En partant de cette analyse qui est qu'aujourd'hui en Afrique, dans tous les pays africains, francophones, lusophones, anglophones, on a une multiplication des luttes, des formes de lutte, une renaissance du syndicalisme, un développement des réseaux de lutte contre la dette, des réseaux de lutte contre la corruption, des réseaux de lutte contre l'impérialisme, contre les guerres, et qu'il y avait besoin d'unifier ces luttes, parce que ce n'est pas la fonction d'un journal, de leurs données d'un journal ou d'un média d'information sur Internet, mais de leur donner une visibilité, de les rendre visibles, et par le simple fait de les rendre visibles, de favoriser les convergences entre ces mouvements qui étaient souvent, y compris à l'intérieur d'un même pays, sectorisés entre les organisations qui travaillent sur l'environnement, celles qui travaillent sur les droits de l'homme, celles qui travaillent sur la France-Afrique ou le mouvement syndical. Donc derrière Libération Afrique, c'est cette idée, c'est plus l'idée d'un portail que d'un journal, ça n'est pas des journalistes professionnels ou bénévoles qui écrivent, ce n'est pas des analyses qui sont portées d'un regard extérieur, universitaire ou journalistique sur les mouvements, c'est donner la parole aux mouvements, à leur communiquer, à leurs analyses, et les rendre visibles autant que possible en utilisant ce formidable outil qu'est Internet, qui permet aussi de travailler de façon totalement décentralisée, de façon coopérative, c'est-à-dire que chacun peut être maître aussi de l'information qu'il met en ligne. Voilà, c'est un petit peu la philosophie de cet outil, d'essayer de coller au maximum à l'actualité de ces mouvements et de participer à leur mise en lien, parce que c'est sans doute aujourd'hui un défi majeur pour le mouvement social africain, avec ses extraordinaires difficultés, les assauts dont il est victime de la part des différents pouvoirs répressifs, avec ses difficultés financières, avec extrêmement, extrêmement fortes. On a du mal à imaginer qu'une organisation syndicale, par exemple, dans un pays, n'a pas les moyens d'organiser la réunion nationale de ses organes de direction, par exemple. Donc c'est de donner de la visibilité et favoriser les convergences. Et je prendrai pour preuve de cette vitalité des mouvements le sommet alternatif citoyen qui vient de se tenir à Bamako, où on avait dans l'assistance près de 200 participants, mais surtout une centaine d'organisations venant de 12 pays qui étaient représentées. Et je crois qu'aujourd'hui, on a des dynamiques de rassemblement. Il y a une dizaine de jours, un forum de la société civile au Cameroun qui était extrêmement intéressant, avec une liberté de parole qu'on n'avait plus beaucoup entendu au Cameroun depuis en tout cas extrêmement longtemps, une virulence sur la question des droits de l'homme, sur la question de la corruption, sur la question de la dette, sur la question des politiques à mener sur le sida, et des convergences qui naissent entre ces différents mouvements et qui constituent une force. Moi, je retiens ce que disait un des participants à ce forum camerounais, c'est que le fait de voir qu'on constitue un mouvement, ça nous donne une force qu'on ne soupçonnait pas, et ça fait tomber la peur. Et c'est un peu l'idée, modestement, de Libération Afrique, c'est de contribuer à faire tomber cette peur, à créer ces réseaux, et à créer de la solidarité entre ces réseaux. Merci.
Je vais passer la parole à Frédéric Siméon, rédacteur en chef d'Afrique 21.
Je vais faire assez vite aussi, parce que je vais pas reprendre un bon nombre de choses que vient de dire Olivier, qui concerne aussi largement Afrique 21 dans sa volonté de donner la parole aux mouvements sociaux africains, etc., mouvements de lutte. Pour faire vite, en gros, ça tombe assez bien que le débat ait lieu aujourd'hui, puisque l'idée d'Afrique 21 a eu lieu il y a exactement 2 ans à l'occasion du sommet franco-africain qu'il y a eu à Paris, quand il y a eu toutes les grandes mobilisations. À ce moment-là, la manifestation à Paris qui avait rassemblé plus de 2000 personnes, déjà tous les débats qu'il y avait eu. Et l'idée nous est venue, notamment à moi, de faire un constat un peu d'éclatement des luttes, d'éclatement des sujets, que par exemple, moi qui étais syndicaliste ou d'autres personnes qui étaient plus sur les droits de l'homme, n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, que selon les pays, on avait aussi un éclatement des luttes selon les pays, c'est-à-dire que des gens qui étaient forcément foncièrement d'accord à la base sur la lutte anticoloniale, antinéocoloniale, sur les luttes sociales, etc., de droits de l'homme, n'avaient pas du tout l'habitude de se rencontrer. N'avaient quasiment pas l'habitude, quand il y avait un meeting ou une réunion publique, d'aller les uns chez les autres, etc., c'était quelque chose qui se faisait très difficilement. Donc, on a essayé de mettre en place, la CNT, dont je faisais partie, Survie, et d'autres associations, où il y a la liste dans la revue, de créer une revue. À l'origine, c'était de mettre au service de la lutte ce qu'on savait faire. on a un certain nombre de personnes dans la revue à venir du milieu de la presse. Moi, je suis secrétaire de rédaction, on a des maquettistes, des photographes, donc des gens qui se décartographent maintenant, qui nous donnent un coup de main, donc des gens qui professionnellement ont une attache réelle avec la presse, qui ont fait le constat, mais ça, Mehdi Ba en parlera mieux que moi, peut-être, ont fait le constat que le milieu actuel de la presse est tellement sous pression économique et sous pression politique que de toute façon, la porte d'ouverture ne viendrait sûrement pas de là. Essayer de mettre un peu notre savoir-faire au service des associations françaises et africaines qui luttaient. Donc notre approche, c'est pas celle d'écrire des articles par nous-mêmes, mais beaucoup plus, quand c'est possible, de faire des interviews et à partir de ces interviews, peut-être de les écrire de manière à ce qu'elles soient le plus compréhensibles à la majeure partie des gens, éviter de tomber dans le charabia militant tout en donnant un maximum d'informations. C'est peut-être un peu la différence avec Libération Afrique, etc. C'est d'essayer de décrypter et de mettre vraiment à la disposition du maximum de gens, ce qui est un peu ce qui est mon métier, par exemple, à moi, dans l'absolu, dans la vie quotidienne, de mettre. Parce que bon, je ne sais pas si tout le monde a vu des tracts qu'on peut faire ou des interventions qu'on peut faire, même ce qu'on est en train de dire aujourd'hui n'est pas forcément évident pour 99% des gens. Et donc essayer d'arriver à faire en sorte de mettre ça en forme dans une revue de qualité au niveau graphique, au niveau du travail qui est fait dessus, au niveau des interviews, au niveau des gens qui sont interviewés, et de mettre ça à la disposition d'un autre discours. C'est quelque chose, c'est une démarche qu'aujourd'hui on en est à 5 ou 6 numéros, je crois, enfin on a fait 6 numéros. Quoi. On essaye aussi d'avoir une démarche militante, même dans la diffusion, c'est-à-dire que le prix de la revue, ça c'est important, j'insiste là-dessus, puisque c'est un peu vrai aussi pour Billets d'Afrique, d'arriver à faire des prix qui soient accessibles aux gens, donc qu'on puisse diffuser, donc de faire en sorte que n'importe qui puisse se payer la revue. Et le prix qu'on fait payer en France nous permet aussi d'aller la diffuser gratuitement en Afrique ou alors à un prix moins cher en Afrique, un prix qui est abordable, puisque ce qui est 2 euros ici, ce qui pour nous est abordable, en Afrique c'est complètement inabordable, très très peu abordable. Donc d'arriver à essayer, entre guillemets, de faire payer ici des gens qui ont les moyens, pas forcément des millions, hein, mais peut-être 2,50 € pour le numéro, de manière à pouvoir l'envoyer gratuitement en Afrique et là-bas, qu'il puisse être diffusé par photocopie ou etc. Donc il y a aussi cette volonté de démarche que j'appelle commercial d'État parce que j'aime pas trop le mot ni ce que ça représente, mais aussi une volonté de sortir des réseaux économiques traditionnels de profit, etc., pour arriver à développer, c'est-à-dire un peu allier notre discours à une démarche militante qui soit conséquente. Donc voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus loin, je préfère répondre à des questions ou des choses comme ça. Voilà.
Ok, donc là je vais passer donc la parole à Mehdi Ba qui est co-auteur de la Mana critique des médias et également éditeur aux Arabes.
Bonsoir, donc moi en ce qui me concerne, je vais essayer brièvement de vous parler de l'information produite en France par des Français sur l'Afrique et adressée à des Français. Je dirais, pour faire un parallèle que je ne pense pas hasardeux, qu'il en va de l'information sur l'Afrique comme de la politique africaine de la France, à savoir que c'est un domaine réservé. Un domaine réservé qui échappe donc aux règles générales de la manière dont une profession, les journalistes en l'occurrence, fonctionnent, qui déroge aussi à ce qu'on est en droit d'attendre dans un état de droit et dans un état où l'information est libre. Un continent entier, c'est quand même un objet d'étude suffisamment conséquent pour que différentes analyses, différents regards, différentes approches se croisent et dégagent non pas une vérité, mais en tout cas nous permettent à nous citoyens de nous faire une opinion. En l'occurrence, en ce qui concerne l'Afrique, l'information est totalement accaparée par des gens que nous avons baptisés depuis que l'un d'entre eux, sans doute le plus célèbre, a publié un livre qui s'appelle « Négrologie ». Donc ces gens sont des négrologues apparemment, mais plus récemment ils ont tombé le masque sur un mot qui leur va comme un gant et qui est un mot beaucoup moins polémique, c'est le mot d'africaniste. On a appris très récemment, à l'occasion du livre qui vient de sortir de Pierre Péan, que Pierre Péan était un africaniste, non pas un journaliste. Et on a appris dans le même livre que Stephen Smith, puisque Stephen Smith répond à l'ouvrage « Négrophobie », qui est l'ouvrage que les Arènes ont publié en réponse à son livre « Négrologie », que Stephen Smith était lui aussi un africaniste. Alors, ça peut vous paraître un détail, moi ça me paraît très important, parce que journaliste, je sais ce que c'est un métier, et on est journaliste, on peut aller traiter des affaires de société, des affaires économiques, de l'international, etc. Mais de voir que des gens aujourd'hui, en 2005, journalistes traitant quasiment exclusivement, pour le cas de Smith, de l'Afrique, se définissent comme africanistes, ben je pense que ça nous renvoie tout simplement à la conception de l'Afrique qu'a la société française en général, et qui me semble malheureusement ancrée dans le 19e siècle et dans une période coloniale qu'on sait... qu'on pense révolue, mais dont apparemment il reste des stigmates très importants pour le malheur de l'Afrique et pour le malheur de la société française, qui, à mon sens, ne peut pas saisir les enjeux du pays auquel elle appartient et de la criminalité générale que ce pays peut générer en Afrique. L'africanisme, pour moi, c'est un terme qui doit être interrogé, parce que ce que ça sous-entend, c'est que l'Afrique ne s'appréhende pas par les historiens, pas par les sociologues, pas par les économistes et pas par les journalistes. L'Afrique s'appréhende par les africanistes. Jean-Pierre Chrétien, qui est un historien de l'Afrique, précisait dans un entretien il y a quelques mois, 2-3 ans à Libération, et c'était sa première réponse à la première question, non, surtout pas, je ne suis pas un africaniste, je suis un historien de l'Afrique. Je m'intéresse à des processus historiques, politiques qui surviennent en Afrique comme ils peuvent survenir en Europe. L'idée d'être africaniste, c'est l'idée qu'il y aurait une essence africaine et qu'il faudrait donc des gens formés spécialement pour appréhender cette essence. Autrement dit, quand vous êtes africaniste, eh bien, de Djibouti jusqu'à la Côte d'Ivoire, du Tchad jusqu'au Zimbabwe, vous êtes compétent parce que l'Africain est l'Africain et que cette formation d'africaniste vous permettrait d'en appréhender la réalité. C'est quelque chose qui me semble extrêmement pernicieux et dangereux, d'autant plus que cette logique d'africaniste s'accompagne de deux choses. La première, c'est qu'un nombre extrêmement réduit de journalistes peuvent régner sur l'information sur l'Afrique qu'on adresse au public français. Et dans le cas de Stephen Smith et de son collègue plus discret, Antoine Glaser, qui est donc le directeur depuis pas mal d'années, ou le rédacteur en chef de la Lettre du Continent, une lettre confidentielle, en gros, pour les milieux décisionnaires, économiques, diplomatiques et autres. Eh bien, deux personnes parviennent depuis 15 ans à délivrer une parole sur l'Afrique à laquelle aucun de leurs confrères des grands médias généralistes ne saurait déroger. On en a des confirmations encore aujourd'hui dans un article de Libération où quiconque connaît l'œuvre de Stephen Smith se reconnaît que chez ses héritiers à Libération, eh bien, on a énormément de mal à s'écarter dans l'analyse des grands dogmes de la pensée de Stephen Smith. L'un de ces dogmes étant, depuis 10 ans, que la France aurait perdu l'Afrique. Et je pense que les Africains auraient manifesté leur joie si c'était vraiment le cas, et j'ai bien peur que ce ne soit pas le cas. Le problème est donc que deux personnes parviennent à donner des axes d'information, des axes analytiques, des axes informatifs, et que derrière toute une profession, eh bien, suit les oracles et se cantonne à ce qui peut être dit sur l'Afrique, et en particulier, puisque c'est bien ça le nœud problématique, ce qui peut être dit du rapport de l'Afrique et de la France, parce que s'il s'agissait uniquement de l'Afrique, à la limite, on pourrait peut-être avoir une information moins verrouillée. Donc le premier aspect, c'est pour moi ce domaine réservé et ce regard essentialiste, un petit peu comme si un journaliste du Burkina Faso pouvait se dire spécialiste de l'Europe, hein, du Finistère jusqu'à la Russie. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a dans l'attitude des médias français sur l'Afrique une attitude qui, au fond, se rattache à une évolution qui est beaucoup plus générale et que vous retrouverez en détail dans les 366 pages de l'Almanach critique des médias. Bon, c'est-à-dire une production de discours et une production d'informations qui, globalement, se rattache aux intérêts de milieux que je qualifierais, pour aller vite, de milieux dominants, de milieux décisionnaires, d'une petite aristocratie ou d'une oligarchie qui règne à la fois sur l'économie, qui règne sur la diplomatie, qui règne sur la politique. Et donc, on assiste à une évolution certaine qui est qu'on ne donne pas aujourd'hui dans les médias français la parole à n'importe qui. Et quand on la donne, eh bien, on la donne à des gens qui peuvent se prévaloir d'un certain statut. Alors, pour donner un exemple qui nous fait sortir du cas de l'Afrique, j'ai été assez surpris de voir récemment, à propos des émeutes dans les banlieues, un plateau dans l'émission de Daniel Schneiderman, où était invité à s'exprimer notamment Françoise Laborde de France 2, un jeune journaliste d'Europe 1, et Schneiderman leur avait concocté un petit montage de la manière dont ils avaient rendu compte, hein, ce qui s'était passé notamment sur la première semaine. Bon, je passe les détails, il en ressortait qu'en gros la version qui était donnée était la version exclusivement policière, ce qui dans certains cas, et c'était le cas, entraînait une désinformation, puisque la police étant partie prenante des événements, c'est une règle journalistique de base, quand vous interrogez quelqu'un qui est partie prenante d'un événement que vous prétendez analyser, le minimum c'est de croiser vos sources et d'aller voir l'autre camp ou des observateurs extérieurs. Et donc on apprenait par ces journalistes qui disaient ça d'une manière candide, ben oui, le ministère de l'Intérieur, il a des moyens, et puis il est censé être sérieux, puisque c'est le ministère de l'Intérieur. Mais à contrario, vous savez, les jeunes des banlieues, il y a beaucoup de rumeurs chez les jeunes des banlieues. En l'occurrence, les jeunes des banlieues dont on parlait, c'était des témoins directs de l'histoire que vous connaissez tous, de ce drame qui est survenu dans un transformateur EDF. Eh bien, cette parole-là, cette parole de quelqu'un qui a vécu, qui a vu, qui était là, n'a pas de valeur. En revanche, le ministre de l'Intérieur, qui lui a beaucoup d'agenda, un agenda politique et beaucoup d'intérêts à défendre, lui était crédible. Pourquoi ? Parce qu'il était une autorité. Voilà. Et bien dans le cas de l'Afrique, on retrouve ça. C'est-à-dire que celui qui peut s'exprimer, c'est le haut fonctionnaire de la Banque mondiale ou du PNUD ou d'une grande ONG reconnue. Aller interroger un militant de base, un militant africain ou un militant européen très impliqué dans les luttes en Afrique, c'est presque obscène pour un grand journal. Je veux dire par grand journal, un quotidien d'information générale, une télé, etc. Donc ça, c'est le deuxième phénomène, et j'en ai trois, je ne vais pas m'éterniser, c'est cette gestion des sources officielles et ce refus, cette détestation des gens qui vivent les événements et qui luttent contre des formes d'exploitation ou pour cesser un certain type d'indignité. Bon, c'est une des raisons, à mon sens, qui font que on ne peut pas percevoir les réalités et les luttes africaines parce que, au fond, on aura toujours une pleine page à donner à un chef d'État comme Bongo, comme Sassou. On aura toujours une pleine page à donner au ministre français de la coopération. Ça, c'est de l'information. Espérer qu'un acteur d'un mouvement d'opposition africain, que pour parler de l'association Survie, Odile Taubner, nouvelle présidente, puisse avoir une pleine page pour évoquer les problématiques qui se posent. Maintenant, sur telle ou telle zone, parler de ce qui s'est passé à Djibouti, ou parler du Rwanda, ou parler de la Côte d'Ivoire, ça s'est déplacé. Voilà. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il y a une sorte de blocage de l'information. Et puis la troisième grande raison, mais voilà, c'est un tri sélectif, et il y en a forcément beaucoup d'autres, ben c'est tout simplement les préjugés, la persistance des préjugés dans le regard que l'on porte sur l'Afrique. Je ne voudrais pas m'étendre sur le livre récent de Pierre Péan, parce que j'aurais beaucoup trop de choses à en dire, et je vais prendre le temps de la réflexion avant de les dire, mais j'ai eu la surprise, et pour vous dire sincèrement, le profond désarroi et l'effarement d'entendre Pierre Péan interviewé sur France Inter, il y a trois jours, dans l'émission Charivari. Effaré, pourquoi ? Effaré parce que Pierre Péan vient de publier un livre qui, à mes yeux, est ouvertement de l'incitation à la haine raciale contre la population Tutsi, qui, accessoirement, est un ouvrage de pur négationnisme à l'égard d'un génocide, qui, par ailleurs, est un livre de blanchiment des responsabilités politiques françaises dans un crime majeur, qui est un crime colonial, et que, franchement, savoir qu'un des journalistes considérés comme un des plus grands journalistes d'investigation travaille comme un petit télégraphiste de la cellule élyséenne 10 ans après la mort de Mitterrand, c'est affligeant. Mais ce qui m'a le plus effaré, c'est la candeur avec laquelle Pierre Péan a été reçu par un animateur de France Inter. Un animateur qui, au milieu de la discussion, entre des questions purement complaisantes et puis quelques questions qu'on avait dû lui préparer sur des fiches parce que le génocide au Rwanda, ça avait l'air de lui être passé vraiment au-dessus de la tête, qui à un moment donné, mais rigolait presque à s'en taper sur les cuisses avec Pierre Péan en disant que c'est vrai quand on y pense, les Tutsis traduisaient le FPR, puisque quand on parle de l'Afrique, FPR égale Tutsi et Tutsi égale FPR, puisqu'il n'y a pas de réalité politique africaine qui dépasserait l'ethnie. Et donc l'animateur lui disait, bah, c'est vrai, 10%, les Tutsis avaient perdu 5% grâce à France Inter, 10% de la population au pouvoir, je ne rentre pas du tout dans un discours sur mon avis sur le FPR. Je veux simplement vous dire qu'il y a quelque chose qui a la vie dure. C'est l'idée qu'en Afrique, le politique ne peut s'exprimer que par l'ethnie. Ce qui, dans le cas du Rwanda, est une aberration, non pas quand on réfléchit au FPR, mais quand on réfléchit au Hutu d'avant le génocide ou d'après, à savoir qu'il y avait au Rwanda une population Hutu qui était extrêmement scindée politiquement. Bon, et bien cette version-là, elle a été ressortie par Hubert Védrine en 1998 devant la mission parlementaire d'information, dites de multiples fois par des officiels français, et un animateur de France Inter en 2005 trouvait encore le moyen d'avoir cette simplification. L'Afrique, c'est l'ethnie, et c'est un horizon indépassable. Je voudrais aussi juste donner deux autres exemples, c'est que donc il y a le regard qui est extrêmement dangereux, puisqu'on ne peut pas appréhender depuis la France les luttes politiques africaines si on réduit les populations d'Afrique à leur ethnie. Et l'ethnie, c'est le mot poli pour dire tribu, parce que dans l'inconscient collectif, c'est de tribu qu'on parle. L'autre regard sur l'Afrique, c'est les tragédies humanitaires. C'est par exemple la couverture, je ne sais pas, dans les 6 derniers mois de Télérama, on interpelle, ça part sans doute d'un excellent sentiment, c'est la famine, on doit bouger, ou plutôt l'omerta, enfin Télérama qui fait une couve en disant, ben, en gros, on est les seuls à en parler, personne n'en parle. Ben, les famines en Afrique, le sida en Afrique, c'est la seule vision qu'on a de l'Afrique. Cette vision misérabiliste où, au fond, à partir du moment où vous présentez l'information, elle va de pair avec un sous-entendu qui est « il faut qu'on les aide ». Et continue ce regard et ce parcours missionnaire ou de dame patronesse qui est que l'Afrique ne peut pas prétendre à l'émancipation et à l'autonomie. Et puis, le dernier épisode, et là je prendrai l'exemple d'envoyé spécial, parce que là je me demande jusqu'à quand ils vont nous les enchaîner, les sujets de ce type, ben, c'est que l'Afrique, c'est aussi, au fond, nous, ça nous rassure parce qu'on aime bien regarder l'Afrique comme étant notre propre Moyen-Âge. Alors, par exemple, récemment, j'ai vu une série, mais comme ça, sans forcément les regarder, d'Envoyé spécial, qui a fait un, puis deux, puis trois sujets. En gros, c'était l'exploitation des talibés, donc des jeunes élèves de l'école coranique au Tchad, où le chef de l'État tchadien, pour lequel je n'ai aucun type de sympathie, mais a quand même dû venir s'expliquer pour dire non, attendez, etc. C'est-à-dire que on vient porter un regard sur une société pour dire, attendez les copains, là, ça va pas du tout, et donc quasiment on convoque le chef de l'État, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'à Paris, chez les diplomates, qu'on convoque les chefs de l'État africains, on les convoque aussi à envoyer spécial en leur disant, promets-moi que vous n'allez pas refaire ça. Et puis, là, le grand truc, en ce moment, c'est l'esclavage au Niger, alors ça pourrait aussi bien être en Mauritanie, etc. Alors, les causes peuvent être justes, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire du relativisme culturel ni sur l'esclavage, ni sur l'exploitation d'enfants qui soient talibés ou autres, mais je vois derrière ça, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur la société française, sur les discriminations qu'elle pratique, sur les oppressions qu'elle pratique, sur les lois antisociales qu'elle adopte à la chaîne, sur les lois de régression générale qu'elle adopte à la chaîne. Que viendrait dire un observateur péruvien en regardant comment fonctionne la société française? Est-ce que lui aussi convoquerait le président, le ministre de l'Intérieur, pour lui dire « mais vous vous rendez compte là du sort que vous réservez à tel type de population, tous ces gens qui vivent dans la rue, ces populations basanées qui n'ont pas accès au travail ou au logement, etc. etc. » Donc voilà, c'est pour vous dire, et je termine là-dessus, et moi j'ai juste fait le constat, alors je ne peux pas terminer sur une note négative, c'est-à-dire que tous nos amis ici agissent dans des revues, ça m'est arrivé à moi aussi, actuellement je travaille dans une maison d'édition, et puis ben voilà, on s'efforce de faire, à travers l'édition indépendante, de faire partie de ce combat, de favoriser la prise de conscience, de faire passer les informations étouffées, et de donner des analyses qui ne sont pas portées par ailleurs. Donc ça se fait aussi dans des livres, et puis bien évidemment, je crois que pour l'Afrique, que l'Internet est un outil incontournable, parce que c'est un des outils qui permettent de passer à travers le filtre, puisque bien évidemment, les publications indépendantes ont le problème de la diffusion pour toucher des gens. On ne peut pas imprimer 200 000 exemplaires et les mettre en kiosque dans toute la France. On est obligé donc d'avoir un terrain de diffusion restreint. C'est parfois le cas aussi pour les livres. L'Internet parfois permet de dépasser, d'aller plus loin, de recueillir aussi beaucoup d'informations brutes dont on n'entendait pas parler par ailleurs, etc. etc. Voilà, donc ben, lisez et informez-vous à travers ces sources-là.
Ils ont brûlé le Congo. blaguetier. La politique américaine, Africa, why was said the blaguetier? La politique France-Africa, c'est du blaguetier. La politique américaine, Africa, why was said the blaguetier? Il cautionne la dictature, tout ça pour nous affamer. Il pille nos richesses pour nous enterrer vivants. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Ils ont brûlé Kinshasa, ils ont brûlé Rwanda. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique Amérique-Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es.
Examine l'œil de la crevette dans un laboratoire. Hein. C'est insupportable. Il n'empêche qu'il est indispensable qu'il y ait des européanistes en Afrique. Alors, comment est-ce qu'on va appeler ça? Des historiens de l'Europe. Je connais quelques jeunes Africains qui sont en train de s'y mettre. Et ça, vraiment, ce serait très très bien. Parce qu'on pourra avoir des regards comparés du monde. Et ça vient. Il faut les y pousser, il faut être avec eux. Ça vient. C'est commencer au-delà de nos frontières à écrire l'histoire ensemble. Il le faut.
Bien, donc je vous demandais si vous voulez poser des questions, vous avez des réactions. Essayez de faire un petit peu court quand même, parce que pour que vous puissiez s'exprimer, le micro est ici.
Je m'appelle Mohamed Kadhami, je suis originaire de Djibouti. Et ça fait quelques temps que je m'étais intéressé
à une
question de médias, en relation avec l'Afrique. Et je sais, c'est combien de très, très, très difficile pour le résistant, en tout cas, de faire passer une ligne ou deux lignes dans la presse. Ça fait depuis 77, même 75, quelque chose comme ça. On a essayé de parler un peu de ce qui se passait à Djibouti. Et donc, c'était vraiment pas facile de faire passer les. Et donc, de fil en aiguille,
pour essayer de comprendre un peu le système. Et même lorsqu'il y avait des tortures, ou même lorsque les gens étaient tués, massacrés, on n'arrivait pas à faire passer cette information. À l'époque, il y avait Amnesty International à Paris, surtout le secrétariat international qui était représenté par une Anglaise et qui couvrait le domaine francophone. Et donc, par ces billets, on a pu peut-être un peu témoigner enfin, de ce qui se passait, particulièrement sur la torture et le massacre. Mais pas, par contre, ici, c'était très, très difficile. Et c'est ensuite, avec l'expérience, qu'on s'est rendu compte que finalement, la presse au niveau française, en tout cas les personnes qui s'occupent de l'Afrique, il y a, en gros, il y a toujours trois quotidiens qui sont c'est Le Monde, Figaro et Libération. Et chacun... peut-être pour le Figaro c'était moins évident, mais en tout cas aussi bien pour le Monde que pour l'Afrique. Que pour Libération, il y avait toujours quelqu'un qui était Monsieur l'Afrique, qui connaissait un peu tout ce qui se passait en Afrique. Et chaque fois qu'il y avait un problème en Afrique, c'était lui qu'on envoyait. Et à partir d'un certain moment, même si au début c'était des gens peut-être des gens qui voulaient s'intéresser un peu à cette région, à force de couvrir toute cette région, qui sont devenus un peu les Monsieur d'Afrique de ces journaux. Donc c'est des gens qui avaient un peu le monopole, quoi, sur, et à partir d'un certain moment, je pense que ces éléments étaient un peu instrumentalisés par les pouvoirs ici. Et tout à l'heure, enfin, un des intervenants a dit, il y avait deux journalistes qui faisaient un peu la pluie et le beau temps, quoi, en ce qui concerne l'Afrique, en parlant d'Antoine Nazaire et Stéphane Smith. Ils sont peut-être, eux, des instruments, c'est-à-dire d'un vaste réseau qui les transcende. D'ailleurs, ce terme africaniste est venu à point nommé parce que il n'y a pas seulement des journalistes qui sont africanistes, mais aussi des chercheurs qui sont africanistes. Et d'ailleurs, peut-être à partir de l'intervention de notre ami, le terme africaniste va prendre peut-être une connotation assez particulière. Et donc, nous, on est façonnés. Et ces journalistes et ces africanistes. Parce qu'en venant en France, les Africains n'ont pas, j'allais dire, des recherches autonomes. Donc notre connaissance, même par rapport à l'Afrique, est un peu biaisée et donc on est un peu façonné par ces élites. Et d'ailleurs, un des problèmes que nous avons, c'est-à-dire aussi bien les résistants que même les gens qui sont dans l'opposition, c'est souvent de ne pas trouver les instruments ou les outils nécessaires pour ne serait-ce que penser l'Afrique actuelle. Parce qu'on est tributaire quelque part ici des recherches et des journalistes. Et ça, c'est un des graves problèmes qui se posent aux résistants et aux opposants. Et donc, je crois que vous avez vraiment touché du doigt un des problèmes que nous avons. Et aujourd'hui, si 57% des sympathisants de gauche trouvent que la colonisation est positive, ça veut dire que ces gens-là sont aussi façonnés par les chercheurs et les africanistes. Et vraiment, je crois aussi bien la population française, la société française que les Africains, aussi bien ici que là-bas, on est en otage, je crois, de ces dirigeants-là. Je terminerai en prenant un exemple chez moi, je suis déjà dit. Le 30 novembre, très tôt le matin, il y a eu un massacre à Djibouti. Et je suis sûr qu'ici, personne n'a entendu parler parce qu'après, ça n'a pas parlé. Il y a eu 8 morts dans un quartier populaire. Les forces de l'ordre sont intervenues et ils ont tué 100 fois, dont 2 femmes, et encore une dizaine de disparus. Peut-être qu'ils sont morts, peut-être. On ne sait pas. Il y a 25 blessés, dont certains sont grièves. Cela se passe au centre-ville de Djibouti. C'est-à-dire qu'il y a 3000 soldats français. 2000 soldats américains, 1500 soldats allemands et quelques soldats espagnols. Même il y a des espagnols qui sont là. Donc aucune agence n'a fait état de ces massacres. Qui s'est passé à l'intérieur de l'hôpital. Chacun à Djibouti, si chacun téléphonait, était au courant des coups de feu et tout ça. Alors on a fait vraiment le forcing qu'on est allé à l'AFP et en état et tout ça. Et jusqu'à hier soir, l'AFP n'avait fait aucun commentaire, aucun dépêche. Et finalement, bon, l'AFP a demandé à son correspondant régional à Nairobi, et donc il a dit, ah oui, après j'ai appelé, j'ai dit alors, oui monsieur, vous aviez vraiment raison, parce que ce que vous nous avez dit, c'est vrai, il y a eu des tueries, bon c'est pas le nom que vous avez dit, mais en tout cas toujours est-il, il y a eu ça. Et donc ils ont fait une dépêche. Et par la même occasion, j'avais aussi téléphoné à Reuters, qui me dit, nous avons un bureau à Djibouti, et donc, ces bureaux-là ne nous ont pas informés. Donc, connaissant un peu le sujet, les bureaux de Reuters, de l'AFP ou de BBC dans les pays africains sont souvent, les correspondants sont des fonctionnaires. Que ce soit en Mauritanie, à Djibouti et dans quelques autres pays, ce sont des fonctionnaires djiboutiens qui dépendent du ministère de l'information. Et donc, les dépêches qu'il envoie, c'est des dépêches qui sont visées par les. Par les. Donc, non, j'ai dit, mais là-bas, c'est les fonctionnaires qui sont vos correspondants, et ils ne pourront pas vous donner les informations en dépendance.
Pas mal les ambassades en Afrique, je crois que j'en ai fait à peu près une quinzaine. Je crois qu'il y a une seule ambassade où on ne m'a pas dit, écoutez, on va vous expliquer le pays, il y a telle ethnie et telle ethnie. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule, c'est celle du Sénégal. Et je pense que c'est parce que j'étais tombé sur quelqu'un qui était un peu pressé. Mais sinon, les schémas de pensée de mes interlocuteurs étaient systématiquement celui de, on va vous expliquer le pays, en 5 minutes, hein, c'est vrai. Vous allez voir, c'est facile à comprendre ce pays, mais il faut que vous sachiez qu'il y a telle ethnie, ceci, cela, ou les hauts plateaux et le rivage, etc. Et ce qui est grave, c'est que ce type de schéma de pensée, ces schémas de pensée ethnistes, sont y compris reproduits dans un certain nombre d'acteurs sociaux, et je pense à des militants d'ONG qui sont eux aussi de passage. Dans ces pays, qui vont y rester 6 mois, qui vont y rester 1 an, qui vont y rester 2 ans, et qui vont, par rapidité, parce que effectivement c'est facile, ça c'est tout en 5 minutes, intérioriser ce discours et le reproduire. Et ça, autant on s'attend à ce que ce soit ce qui soit tenu comme discours du côté des officiels, de ceux qui ont fait les écoles de diplomatie française marquées pour toujours par le complexe de Fashoda, de la part de militants associatifs, ça nous surprend plus, mais là encore, on a des reproductions de milieux expatriés. Et je crois qu'il faut qu'on soit aussi capable d'analyser ce genre de choses.
Je suis un peu embêté parce que je lis pas suffisamment la presse anglaise et suffisamment régulièrement pour répondre strictement à la question. Moi, je me permets de la reformuler pour y répondre différemment. Je pense que des quelques puissances européennes, et il n'y en a pas tant que ça, qui ont été des puissances coloniales, notamment en Afrique, puisque c'est l'Afrique qu'on parle, je pense que la France est la seule qui ait gardé ce besoin de se raconter à elle-même, et parfois même, ce n'est pas juste une vue de l'esprit, puisqu'elle fait tout pour le rester, en tout cas pour rester une puissance impériale. Et continuer de régenter son précaré comme au bon vieux temps des colonies. Je ne crois pas que ce soit le cas de l'Angleterre, je ne crois pas que ce soit le cas de la Belgique, je ne crois pas que ce soit le cas du Portugal et je ne crois pas que ce soit le cas de l'Espagne. Je pense que j'ai oublié personne, ce que je mets à part l'Italie et l'Éthiopie peut-être. Et le parallèle, je me permettrai moi de le faire sur un secteur où là j'ai plus fait de la lecture comparative, les médias belges et les médias français. Bon, et bien évidemment, les médias belges, d'autant plus préoccupés par l'ancienne zone qui était partie de leur colonie, autrement dit l'Afrique centrale, ex-Congo belge, Zaïre, RDC, et Rwanda, Burundi. Et bien là, c'est le jour et la nuit. Et c'était le jour et la nuit il y a 10 ans, au moment du génocide au Rwanda, c'était très clair. Hein. Vous prenez Le Monde ou Libé, peu importe, vous suivez comme ça, le premier mois du génocide. On vous parle de massacres interethniques. C'est pas très bien, il y a une guerre, qu'est-ce qui se passe? Et puis au bout de 2 jours ou 3 jours, dans le soir de Bruxelles, vous savez qu'il y a un génocide qui est en train de se dérouler au Rwanda et que c'est extrêmement grave. On reprend les choses 10 ans après, Pierre Péan publie 600 pages de négationnisme carabiné, je l'ai évoqué. Les médias français tortillent, c'est pas très bien, un peu de critique, mais pour mieux aller réhabiliter derrière. La Libre Belgique, le soir, font chacun un article, tout est lumineux, la critique est assumée. on parle d'un sujet grave, donc le but n'est pas de faire du journalisme militant. La Libre Belgique, en gros, c'est proche de l'Internationale démocrate chrétienne, donc comme journaux extrémistes de gauche, on a vu plus radical. Mais l'article de Marie-France Cros d'il y a deux jours est absolument... Enfin, je l'aurais vraiment signé ou co-signé, si tant est que j'ai pu le faire, mais avec, sans retoucher une virgule. Donc voilà, sur ce point-là, je veux donc penser que parce que l'enjeu est resté un enjeu essentiel, parce qu'on reste toujours avec des accords de coopération qui font de pays comme le Gabon, par exemple, la Côte d'Ivoire, ce sont toujours des protectorats militaires. Djibouti, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Voilà, la France a toujours des protectorats militaires et des colonies qui ne disent pas leur nom en Afrique, et ce faisant, elle a besoin de verrouiller l'information, parce que c'est une autre réalité qu'on donne à voir au peuple français. Et puis je rebondirai juste sur des propos qui étaient évoqués par deux personnes, à savoir que c'est vrai que pendant plusieurs années, on s'est dit, et je pense que bon, pour une survie, pour moi, même si les combats étaient menés antérieurement, c'est vrai que le génocide de 94 a été plus qu'un choc, et ça reste un traumatisme, parce que la France est directement impliquée. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc j'ai cru pendant un certain nombre d'années, sans doute par candeur ou naïveté, qu'au fond... Le peuple ne réagissait pas, je parle du peuple français, ne réagissait pas parce qu'on lui cachait la réalité, on lui cachait les informations. Et aujourd'hui, je reformule différemment, c'est pas tant qu'on lui cache, c'est qu'il y a effectivement un impensé colonial majeur. Et je crois que là, il faut quand même se remettre face à l'échelle du temps. Comment mes grands-parents, à moi, dans la branche française de mes grands-parents, qu'est-ce qu'on leur enseignait à l'école ? Quel était leur environnement intellectuel quand on parlait des peuples indigènes, des peuples colonisés? Du temps de ma mère, pour parler toujours, puisque c'est ma branche maternelle qui est française, oui, elle a failli connaître les eaux humains. Donc on en est là. On était, il y a une à deux générations, on mettait des noirs dans des zoos humains et les gens allaient les voir au jardin d'acclimatation ou ailleurs, ou pendant l'exposition universelle de 31, etc. Les propos, la théorisation de la colonisation, tout ça était extrêmement prégnant. Aujourd'hui, moi je pose une question. On sait tous d'où ça vient, cette histoire coloniale et ce rapport à l'Afrique. On sait par où on est passé, quel regard sur l'autre on a porté, quelle oppression de l'autre on a fait porter. Et moi, je suis né dans un monde, à la veille des années 70, où au fond, ben, voilà, ces pays étaient devenus des amis, des partenaires, des presque frères. Alors moi, je pose la question, où a été la rupture? Où et quand? Il y a eu rupture entre l'ancien monde et ce nouveau monde? Non. Il y a eu des indépendances raflées, captées, avec des accords de coopération secrets, qui prévoient au fond les matières énergétiques du Niger ou du Gabon, sont déjà raptés par la France. Donc tant qu'il n'y aura pas eu cette révolution dans le regard sur l'autre, on ne sera pas allé sonder, comme au fond on affronterait, là je pense à Claude, une psychanalyse nationale. Tant qu'on n'est pas allé chercher cet inconscient-là, je pense qu'effectivement on peut ajouter les dépêches les unes sur les autres, il y a quelque chose qui restera une forme d'apathie. Et c'est pas que les gens sont pas indignés, c'est que je pense que la prégnance de ce regard qu'on a porté sur ces peuples et qu'on porte sur nous, parce que ça s'est toujours fait en miroir, peuple supérieur, peuple inférieur. Nous, on a des sociétés politiques, ils ont des tribus, etc., etc., etc. Voilà, donc je pense que c'est là, en tout cas pour nous, éditorialement, maintenant c'est sur ça qu'on veut travailler, sur cet inconscient. Et non pas sur la révélation qu'on a rapté du pétrole au Congo-Brazza ou qu'on a soutenu une armée ou formé une armée. Parce qu'au fond, ces événements, il y en a qui restent occultés, le massacre des Bamiliké au Cameroun, ça reste occulté. L'histoire de l'implication française dans la guerre du Biafra au Nigeria, ça reste une histoire qui reste à écrire. Mais dans les événements plus récents, grâce au travail de toutes ces publications et des gens qui viennent témoigner, des ONG engagées, je dirais, plus dans la lutte civique que dans l'humanitaire pur, on a des connaissances. Mais il y a quelque chose qui ne fait pas réagir. Et peut-être que c'est voilà, là-dessus qu'il faut faire porter nos efforts. Et les exemples là, qui ne parlent pas de l'Afrique, qui parlent des Français, d'ascendance afro-antillaise, enfin d'eux on parle le français, les histoires de polygamie pour expliquer les banlieues qui brûlent, ça montre où on en est. Voilà, donc je pense qu'il y a un nouveau chantier qu'il faut le prendre à bras-le-corps et essayer de faire évoluer.
Et sinon, pour finir, on est en train de mettre en place une plateforme de résistance à la France-Afrique. C'est modeste pour l'instant. On a fait une charte dans lesquels donc plusieurs mouvements se reconnaissent, notamment la Fédération des Congolais de la Diaspora. et tout simplement parce que en faisant, c'est vrai que bon, il y a beaucoup d'opposants à la France-Afrique qui viennent voir Sharon pour leur dire voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe en ce moment, la torture, la dictature, etc. Et on fait des manifs, on soutient les manifs d'opposants à la France-Afrique de chaque pays, et on se retrouve souvent devant des ambassades du Tchad, du Togo, etc., avec quelques dizaines de militants, avec des banderoles, mais à force d'en faire, on comprend mieux, c'est que ces banderoles sont les mêmes, ce sont les mêmes banderoles, sauf que le nom du pays change. Mais c'est toujours le parrain Chirac de la France-Afrique qui est sur les banderoles. Donc on s'est dit, pourquoi pas unir un peu tous ces mouvements contre la France-Afrique. Bon, alors c'est pas évident, c'est précaire, tout ce qu'on veut, mais en tout cas, ça mérite d'exister. Je pense qu'à Bamako, le coordinateur des activités militantes à survie, Fabrice, qui en a parlé, a fait l'annonce de cette plateforme. Et puis bon, voilà, on va essayer de commencer à travailler dans l'union. Merci.
Voilà, vous êtes toujours sur FPP dans les oreilles, loin du front. Vous venez d'entendre une conférence qui s'est tenue vendredi sur la France-Afrique. Vous pouvez poursuivre vos recherches sur le sujet en lisant l'ouvrage de Vershav, Odile Taubner et Boubacar Diop qui s'appelle Négrophobie, ou bien sur l'almanach critique des médias qui est plus justement sur les questions des manipulations médiatiques. Et sinon, vous référez au site de Survie Afrique 21 ou bien libération.org. Libérationafrique.org, pardon.